Bonjour et bienvenue sur Antithèse Radio. Nous sommes en live, mais aussi sur le compte Instagram d'Antithèse. Nous recevons aujourd'hui une invitée de marque, donc Madame Mallet. Bonjour Madame.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie. Merci de m'accueillir.
C'est tout à fait normal de vous accueillir. Déjà, moi j'ai une question là qui me brûle un peu les lèvres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre titre ?
Mon titre.
Oui, votre métier.
Ma fonction, je suis journaliste. Je suis réalisatrice en fait maintenant. J'ai commencé, j'ai été journaliste reporter d'image, donc à la caméra. Enfin, je faisais seule des reportages en fait. Et maintenant que je suis en charge de reportages un peu plus longs, plus denses, je suis réalisatrice indépendante. Donc. Appelée par M6 pour une commande, pour un reportage long pour Zone Interdite, pour l'émission de M6 Zone Interdite.
Mais parce que moi je sais que je côtoie beaucoup d'élèves, quel a été votre parcours ? Parce que ça peut intéresser d'autres élèves, donc bien sûr qui sont autour de nous, pour le journalisme. Quel a été votre parcours pour y parvenir ?
J'ai eu un parcours assez classique, mais... J'ai fait une hypocagne, une cagne après le bac, une maîtrise d'histoire et une école de journalisme reconnue, le Centre de formation des journalistes à Paris. Mais dans ma promotion, il y avait des parcours complètement atypiques. Hein. Il y avait une jeune femme qui était pasteur juste avant. Il y avait des gens qui avaient fait peu d'études aussi. Enfin, c'est une formation, c'est un métier qui est encore accessible, et ça c'est plutôt bien parce que on peut se former sur le tas encore.
Bien sûr, autour de nous on a des invités de marque. Donc on a Monsieur le Proviseur. Bonjour Monsieur.
Je vous remercie de me qualifier de marque.
C'est toujours. Monsieur Bardet.
Et puis rappelez, c'est un invité mystère. Vous avez dit,
oui.
Le cadre de l'émission. Vous avez donné le titre, le nom de l'émission
Non, il y a...
C'est pas...
C'est une émission surprise.
D'accord, c'est une émission surprise, d'accord.
Après, bien sûr, nous avons Madame de la Victoire.
Bonjour.
Bonjour Madame.
D'être sur l'antenne Antithèse Radio du lycée de l'Orc.
Nous avons bien sûr Madame Arnoldi. Bonjour Madame.
Oh, merci, bonjour.
Et après, nous avons... des amis à moi, donc Nicole Maxence, comment tu vas ?
Je vais très bien, comme toujours, sur Antithèse.
Ça va. Et Cajun Hugo, comment tu vas ?
Je vais très bien, c'est une grande première pour moi, donc un peu stressé, mais ça va.
C'est normal. Par rapport à votre venue, madame, quel est le thème de ce reportage ?
Alors, ce reportage aura pour thème l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. C'est un sujet qui peut faire peur, qui peut être tabou pour certains. En fait, c'est plutôt intime. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'émission Zone Interdite s'y intéresse. Parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, évident à aborder pour tout le monde. Et en fait, on a décidé de s'y intéresser, de se pencher sur cette question parce qu'elle recouvre de nombreux thèmes comme l'égalité homme-femme, fille-garçon... des idées reçues, des préjugés sexistes, des stéréotypes qu'on véhicule, qui sont parfois bien intégrés, des stéréotypes de genre sur l'orientation sexuelle. Donc c'est important, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est un sujet important qui permet de promouvoir le respect de soi, le respect de l'autre, l'égalité entre les sexes et entre les sexualités. Et c'est important de changer la donne, c'est-à-dire d'aborder ce sujet non plus seulement de façon négative et faire de la prévention par la peur, comme ça a pu l'être pendant de nombreuses années, où on disait aux jeunes « Attention, le sexe, c'est dangereux, vous pouvez avoir des grossesses ou des maladies. » Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. et c'est important, de s'inspirer de méthodes qui sont peut-être... plus novatrices, plus révolutionnaires dans les pays scandinaves ou au Canada, qui sont des approches justement plus positives de sexualité.
Mais vous qui êtes dans l'éducation nationale, qu'en pensez-vous de ce reportage ?
Le, D'abord, c'est une chance de qu'on ait Madame Mallet à nos côtés aujourd'hui. Alors qu'en pensez-vous ? Il n'y a pas de reportage qui puisse se faire sans que nous soyons d'accord. Donc on part vraiment sur l'idée qu'on peut construire ensemble un beau reportage sans rien masquer, en disant les choses avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté. Donc qu'en pensons-nous ? Évidemment, on est complètement favorable et ouvert à mettre en valeur ce qui est fait ici. Et puis aussi sans phare et honnêtement, comme je l'ai dit, voir dire les choses. Et Madame Mallet l'a parfaitement indiqué il y a un instant. C'est un sujet non pas compliqué, mais complexe plutôt. Complexe. Donc il y a une complexité intéressante à regarder comment on fait dans des établissements scolaires, parce qu'il y en a deux en un seul, le collège et le lycée. Ben, comment on fait pour avancer, faire du progrès social, tiens, voilà, c'est l'expression que je cherchais, sur ce sujet, modestement, honnêtement, et puis dire les choses, les phrases, qui marchent, qui marchent moins, pourquoi, prendre des exemples concrets. Enfin, je suppose que ce sera ce reportage-là. Et une cité scolaire comme la nôtre, il faut saisir au bon la possibilité de présenter ce qu'on fait, voilà, en toute transparence. Et aussi, je pense que derrière ce reportage, il y a l'idée qu'il y a vraisemblablement c'est toujours intéressant, une possibilité d'améliorer encore notre travail, parce que c'est toujours intéressant de le formuler, de le montrer. Ça interroge sur ces pratiques, comment les choses sont faites ici. Vous voyez, le fait, un reportage comme celui-ci peut améliorer encore, à mon avis, le fonctionnement de l'établissement.
Mais vous, en tant qu'élève, quelle est votre pensée sur ce sujet, sur cette question ?
L'éducation à la sexualité, c'est vrai qu'on entend parler, nous, en tant qu'élèves, dans nos formations, dans les formations scolaires depuis très longtemps. On reçoit ce qui nous est donné, donc on reçoit des cours d'éducation sexuelle, on a des interventions au cours de l'année, voilà. Mais après, on sait pas vraiment ce qui est prévu, si c'est dans les programmes, si c'est fait spontanément par les établissements, si c'est imposé par les chefs d'établissement, ce qui est fait. Et peut-être que le fait qu'un média s'intéresse au sujet en lui-même et essaye de le développer, d'un peu l'explorer, permettrait même aux élèves, je pense, en plus des parents, de voir en quoi ça consiste, d'où ça vient et quel est le but recherché à travers tout ce qui est fait.
Et toi, Hugo, t'en penses quoi ?
Eh bien, moi, comme l'a dit Madame Mallet, c'est vrai que c'est un sujet qui est encore très tabou dans les familles d'abord. C'est des sujets qui sont compliqués à aborder. Donc je trouve que c'est plutôt bien ce reportage, puisque ça peut permettre de faire évoluer un petit peu les consciences, de montrer aussi différents points de vue. D'autant plus que notre génération est touchée par les réseaux sociaux, donc c'est un nouveau problème, une nouvelle éducation à la sexualité qui s'impose. Donc pour moi, c'est une très bonne chose.
Mais tu n'avais pas ouvert une antenne UNICEF ?
Si, justement, cette année on a mis en place une antenne UNICEF, donc on est 11 jeunes ambassadeurs dans le lycée. On a fait une première action le 20 novembre pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc on était devant la vie scolaire, on animait un stand où on distribuait des flyers explicatifs et une exposition devant laquelle je faisais de la prévention orale et de la sensibilisation concernant cette égalité filles-garçons et l'excision en Afrique du Sud.
Ok.
Je voulais simplement, si vous me permettez, j'ai oublié de dire quelque chose. Si cette émission a bien lieu et que tout se déroule comme prévu, il faut rappeler quand même que cette émission, elle aura lieu grâce à vous, les élèves, mine de rien. Parce que, Madame Mallet en parlerait plus précisément que moi, mais si elle s'est intéressée à cet établissement, c'est du travail qui a été fait, en particulier par les ambassadeurs, et les prix gagnés, et le travail considérable qui a été fait par les élèves, et Madame Arnoldi... Et Madame Audan à l'époque. Hein, donc je me permets de le rappeler parce que on n'est pas resté dans l'ombre, parce que déjà il y avait une dynamique mise en place dans l'établissement. Hein,
tout à fait, j'ai mené une enquête pour vous trouver.
Et d'ailleurs, vous pouvez nous dire comment vous avez fait, parce que c'est intéressant, parce que on a été
surpris.
On a été surpris parce qu'on ne figure pas forcément sur des sites d'éducation nationale.
Vous ne savez pas assez bien chercher. non,
je vous écoute, c'est très intéressant.
Franchement, j'ai sollicité pour le coup l'éducation nationale. Ils m'ont pas été d'une grande aide, mais par contre, leurs sites sont assez bien faits. Et donc, sur le site du ministère, il y a le prix non au harcèlement avec les lauréats des éditions précédentes. Et donc, je me suis intéressée un peu plus particulièrement à la catégorie prix non harcèlement sexiste et sexuel, qui est plus en lien encore avec mon sujet. Et du coup, là, j'ai répertorié les établissements qui avaient été récompensés. J'ai vu que vous aviez fait une vidéo il y a 2 ans, une affiche l'année dernière, et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé l'établissement. Et c'est vrai que après, je suis allée sur le site de l'établissement, j'ai vu qu'il était particulièrement bien construit, qu'il y avait une volonté de communication, tout un ensemble de projets, pas juste la participation à ce prix. Et c'est vrai que j'espère avoir la chance de venir faire mon reportage ici, parce que je pense que vous avez la chance d'être dans un super établissement avec pas mal de projets, de moyens, une parole qui est mise en valeur, et c'est pas le cas partout. Et puis des temps forts aussi, un bal de fin d'année quand même, un carnaval, enfin plein d'événements. Non, vous êtes vraiment gâtés, j'ai l'impression. Et du coup, tant qu'à choisir un établissement, parce que là, c'est vrai qu'on va s'intéresser à un établissement en particulier, si on peut se tourner vers un établissement agréable à vivre et où il y a des projets, où l'équipe est à votre écoute, où ce sera plus facile aussi de tourner, tant qu'à faire, on espère que ce sera là.
Mais bon. Depuis qu'on parle, vous avez l'air assez étonné de tout ce qui se passe dans ce lycée, mais vous avez été en contact avec beaucoup de lycées.
Ouais.
Et qu'est-ce qui dénote vraiment ?
Il n'y a pas forcément ce foisonnement de projets, il n'y a pas forcément une parole lycéenne ou collégienne qui est valorisée, il n'y a pas forcément toutes ces infrastructures, ces installations, ces moyens. Non, il y a. Dans certains établissements, j'en ai contacté pas mal, il y a la priorité donnée au programme et les heures de cours et rien de plus. Et c'est plutôt rare que
qu'il y ait
ce genre de choses.
Merci beaucoup.
Ça fait beaucoup d'informations, parce que nous, on est friands des informations. Même vous suivre dans ce reportage, nous, je parle de la web radio, de notre équipe, ça pourrait nous apporter beaucoup de bénéfices. Même, pour apprendre ou vous suivre. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner déjà ? Et juste comme ça.
Pour faire.
Pour nous améliorer de.
Par rapport à la web radio ?
Oui.
J'ai pas trop de conseils, ça m'a l'air assez pro. Après, pour le métier, si vous voulez, je serai disponible, il n'y a pas de problème pour répondre à vos questions, pour vous aider à trouver des stages éventuellement, ce que je peux faire. Sur les techniques d'interview, si vous voulez, je sais pas.
Est-ce que vous avez des choses à. Ouais,
des questions, parce que, alors, sur le reportage en lui-même et son but, donc on a dit que c'était un reportage uniquement sur le lycée, sur éducation sexualité, mais donc ce sera un reportage qui sera destiné au grand public, donc à tous les téléspectateurs d'M6. Et quel est le but recherché ? Est-ce que c'est un but pour le spectateur qui sera un but d'éducation, un but de sensibilisation à ça ? Qu'est-ce qui pourrait, dans l'éducation au lycée, toucher les téléspectateurs qui n'ont pas d'enfants scolarisés ou qui n'en ont plus ou ne comptent pas en avoir, et pourquoi la sexualité, pourquoi est-ce que c'est parce que c'est tabou, ça va intéresser le téléspectateur plus qu'un autre sujet, est-ce que c'est parce que pourquoi.
C'est vraiment un sujet qui est dans l'air du temps. Vous avez remarqué, il y a quand même le Grenelle des violences conjugales, il y a quand même toutes ces questions qui sont récurrentes en ce moment. Il y a vraiment une effervescence là-dessus, donc c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Il y a les annonces d'Emmanuel Macron sur le porno aussi, l'accès au porno aux mineurs. Ça fait partie de notre sujet. Concrètement, il y a un accès libre via les smartphones. Ça fait partie de l'éducation aussi à la sexualité, parce que j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais bon, je crois que à 11 ans, il y a quand même un tiers des enfants qui ont déjà vu une vidéo pornographique. Donc, ça fait pas mal de dégâts sur l'égalité homme-femme, sur tout ça, sur les rapports. Et qu'est-ce que vous me demandiez d'autre ? Donc sur ce sujet, sur les téléspectateurs, je pense quand même que c'est un sujet qui est assez rassembleur parce que on se pose forcément des questions, même si on n'a pas d'enfants, sur ce que nous on a eu, la façon dont on vit. C'est vraiment un sujet qui va construire les citoyens, les rapports hommes-femmes. Enfin, c'est vraiment un sujet important et sans le faire racoleuse, quoi. Oui. On peut, je pense, aborder le sujet et le faire de façon intéressante et positive. C'est un sujet important pour moi. Il y avait un autre volet de la question ?
Non, pas que je me souviens, en tout cas. Et vous parlez, depuis que vous êtes arrivé, vous nous demandez, donc on vous a présenté, ça n'a pas été précisé, on vous a présenté le lycée, on vous a présenté notre fonctionnement, ce qu'on fait, nos actions, et vous avez une attention particulière, j'ai remarqué, depuis qu'on est arrivé, sur la parité. Sur la parité dans nos institutions, dans nos actions, dans nos représentations élèves. Et est-ce que pour vous cette parité, ça n'a pas un rapport avec l'éducation à la sexualité de manière plus générale ?
Ouais, je pense que ça se joue aussi. Effectivement, c'est tout ce qui est tout ce sexisme intégré depuis l'enfance qui fait qu'on va s'interdire d'être délégué, pardon.
Délégué au conseil.
Voilà,
de
exactement. Ouais. Ou ce genre de choses. Je pense qu'on se censure un peu plus facilement. Et du coup, quand... c'est aussi ce que vous disiez, Hugo, tout à l'heure, sur que vous avez pris conscience aussi de petites choses anodines, oui, qui parfois jouaient, même vous, alors que vous êtes quand même plutôt éveillé à ces notions,
oui,
j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai que ça m'a permis justement de me dire que j'ai quand même un travail à faire sur moi-même et que je dois faire partie de cette évolution-là de pensée, de conscience.
Comme
pour
tout le monde.
Voilà.
Il y a simplement par rapport à ce qui vient d'être dit, pardon, je vous ai interrompu. Je voulais évoquer une étude qu'avait fait le ministère de l'Éducation nationale sur la réussite des jeunes filles dans les sections scientifiques, et où on s'apercevait que vraisemblablement, parce que en ayant moins confiance en elles, je simplifie, elles s'interdisaient souvent de choisir les fameux bac S qui maintenant bientôt s'arrêter. Et alors qu'elles étaient plutôt globalement, messieurs, supérieures en résultats aux garçons, elles s'orientaient beaucoup plus difficilement vers ces sections-là, et que je me souviens que cette étude semblait montrer avec prudence que c'était une question un peu d'estime de soi ou de confiance en soi, c'était assez net. Et cette étude était vraiment intéressante parce que derrière les sections S, évidemment, il y avait l'accès à certaines filières élitistes, elles aussi. Et ce qui expliquait en grande partie après que dans des classes prépa très 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 cotées, ou dans des grandes écoles, ou dans l'accès à certains métiers, on avait donc plus de garçons. Et l'étude, elle date de maintenant longtemps, mais elle était très très éclairante là-dessus.
Mais même dans des professions qui sont assez féminisées, hein, comme la journaliste, le milieu des médias, il y a beaucoup beaucoup de journalistes qui sont des femmes. Par contre, rédacteur en chef, ça reste quand même assez masculin. Directeur d'information, voilà, c'est le poste masculin.
Et pour un petit peu étayer vos propos, hein, je regarde la constitution de cette salle, là, sur la web radio. Et pour nous, en tant qu'encadrants, entre guillemets, on peut se dire, tiens, une seule fille pour quand même un maximum de garçons, alors que les filles pourraient très bien être aussi à la technique.
Oui.
Donc nous, on a aussi beaucoup à œuvrer, hein, dans ce sens. Juste une petite question, Karine Hippocagne, le pourcentage garçons-filles ?
Ah bah alors là, on était 36, 4 garçons.
Voilà, voilà. Exactement. Donc matière scientifique, comme vous le disiez, un maximum de garçons. Donc dans les grandes classes préparatoires, mais cette fois plus littéraires, c'est des chiffres
représentation des filles. Ouais.
J'ai fait la même formation que vous, plus jeune, Karine Hippocagne. La proportion de filles, je me souviens, était très très faible. Très 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 faible. Très faible en littéraire.
Et vous êtes journaliste indépendante, mais vous dépendez quand même d'une structure, de quelque chose, ou vous êtes totalement indépendante ?
Non, je suis indépendante.
D'accord. Parce
que je collabore régulièrement avec la société de production d'M6 depuis 4 ans, mais j'évolue dans plusieurs rédactions et ça peut être en même temps. Ouais.
D'accord, très bien.
Alors une question, excusez-moi, mais bien basique, et vous arrivez à en vivre?
Oui, c'est compliqué.
Ah, voilà, d'accord.
Mais... C'est pour ça que, enfin, je veux pas, surtout pas décourager les vocations, surtout pas. Mais peut-être comme d'autres milieux, hein, mais c'est un peu sinistré quand même.
D'accord.
Mais donc vous avez, quand vous fonctionnez, donc après on va pas rentrer dans les ailes, bien, voilà, on atteint nos limites de l'indiscrétion, mais vous fonctionnez donc où vous avez un reportage et donc vous avez un devis qui vous est fait pour un reportage, vous êtes payé pour un reportage, ou vous êtes après embauché sur plusieurs mois par une société de production qui vous.
Bah là j'ai pas de clause d'exclusivité. Je peux faire par exemple sur ce reportage en particulier, donc la diffusion c'est à normalement septembre 2020. Donc j'ai un an pour le faire, ça va me prendre pas mal de temps. Je peux très bien faire un autre reportage pendant ce temps-là, en même temps, si je peux, quoi, si j'ai le temps disponible et que ça se goupille bien, surtout l'emploi du temps.
D'accord. D'accord, très bien.
Mais il faut combien de temps pour faire un reportage?
Bah, y a pas de règle, en fait, ça dépend vraiment. Là, sur une immersion, donc 90 minutes de reportage, c'est un an, mais il y a certains reportages de la même durée qui vont prendre 2 ou 3 mois. Il y a des temps de tournage, je vais avoir 45 jours de montage, je vais avoir peut-être 35 jours de tournage, quelque chose comme ça.
C'est pas le même temps de montage pour nous, hein.
Et puis, y a tout la partie cachée de l'iceberg, le travail de préparation.
En amont déjà.
Voilà.
Immense.
Qui est important, ouais.
Déjà de nous trouver sur internet.
Il y a de documentation et puis de contacts, d'enquêtes.
D'accord. Et vous présentez comme journaliste, ça vous n'êtes pas à ouvrir des portes, à avoir accès à des zones interdites?
J'ai pas compris, pardon.
Est-ce que le fait de vous présenter souvent comme journaliste, ça vous aide pas à avoir accès à des lieux, à des instances, à des choses qui sont souvent déconnectées du grand public?
C'est à double tranchant. Ça aide et ça bloque aussi.
Oui.
Ça
oui,
fait
oui.
peur, c'est intimide.
C'est intimide. Mmh. Ouais. Mmh.
Mais oui, j'ai travaillé avec Stéphane Bern sur des sujets patrimoine et institutions. J'ai eu accès à des... Enfin, j'ai eu la chance d'accéder à des lieux. Par exemple, sur l'école de Saint-Cyr, j'avais porte ouverte dans tout. C'était formidable, quoi. J'ai assisté à des cérémonies qui normalement ne se font que dans le cadre de l'institution et qui sont pas accessibles au public, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et enfin oui, bien sûr qu'on voit des choses, c'est formidable.
Vous avez des exemples de reportages que vous avez déjà tournés qui vous ont permis de découvrir des choses que même vous n'imaginiez peut-être pas?
J'imaginais pas assister à des opérations chirurgicales dans le bloc opératoire. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Parce que j'ai travaillé pour le magazine de la santé sur France 5. C'était assez traumatisant au début, et puis comme tout, on s'habitue.
Avec Michel Simès.
Ouais.
Et Marina Carrère-Dancos.
Ouais.
Ah, d'accord.
Tu étais très au courant.
Ah, bah oui, je les adore.
Il y avait Madame Carambeu aussi, je crois.
Et Adriana Carambeu aussi, ouais.
Oui, oui.
Oui, le corps
humain. Sur France 2, c'est une autre émission, mais effectivement.
D'accord.
Prof. Beaucoup de choses. Ouais.
Où le lycée et le collège interviendront aussi. Enfin, on sera.
Oui,
une action.
Oui, on a aussi été. J'ai vu ça.
Pour le collège. Ouais.
D'accord.
Sur le sommeil et les écrans.
Ça, c'est le sujet. Mm. Je sais que les tablettes aujourd'hui. Mm.
D'accord. Ça, on débat les tablettes en ce moment.
Parce que comme vous le savez peut-être, maintenant tous nos premières et secondes sont équipées de tablettes numériques à la place des manuels.
Ah, mon chef.
Donc voilà, plus aucun avec la réforme, on a jeté tous nos manuels.
Ça allège le carton, enfin le sac.
Oui, la région a légué à tous les élèves une tablette tactile avec tous les manuels PDF.
Vous êtes bien doté, hein, c'est ce que ça se confirme.
A donné, oui, c'est, mmh. Voilà, c'est ça. Voilà. La région a donné à chaque élève.
Et est-ce que vous avez un accès à Internet sur la?
Alors, il y a des bornes Wi-Fi qui sont mises en place. Donc pour l'instant, on en a 7 dans l'établissement, donc ils sont disposés à des endroits stratégique entre guillemets où les élèves auront plus de chances de se connecter. Après, au fur et à mesure des années, la région nous dotera de nouvelles bornes de Wi-Fi.
De vrai.
Où on pourra les acheter, bien sûr, à nos frais. Hein, c'est...
On pourra, c'est-à-dire on le pourrait. Chef d'établissement prendra sur le budget de fonctionnement voilà, s'il le peut. Parce que on pourra, ça m'inquiète toujours.
On pourrait.
Voilà, on pourrait se maqueter encore plus. Voilà, mais ce, oui, effectivement. C'est, voilà, voilà. Et on a déposé, on a fait placer les antennes Wi-Fi, il y en a 7, effectivement, dans les endroits où il y avait peu d'ordinateurs et à des endroits de rassemblement des élèves, puisqu'il s'agit surtout de, normalement, de télécharger les manuels. Ça doit servir à ça. Je précise parce que j'ai vu des drôles de choses sur les tablettes l'autre jour.
D'accord, très bien.
Toujours un côté proviseur hein, qui sommeille en moi.
Tant que c'était pas une image de boulgour.
C'était pas une image de boulgour, mais il y avait des gens qui tiraient sur d'autres, je crois. Ça s'appelle Fortnite.
Ah oui.
Ah, c'est des jeux.
Non, il n'y a pas de boulgour. Dans le boulgour, c'est une affaire entre nous.
Ah, oui. Private joke.
C'est un fil rouge.
Alors, lorsque Maxence parlait de votre étonnement par rapport à ce lycée, à toutes les actions qui permet, ben c'est, moi, c'est un étonnement que je comprends. Parce que, donc pour la petite anecdote, ma première année ici, l'année dernière, première réunion avec monsieur le proviseur, réunion CVL, la première chose que je lui ai dit à la fin, c'était merci. J'étais dans un collège compliqué, où j'ai jamais réussi à me faire entendre, où je me suis battu et on m'a toujours recalé en me disant « tu n'es qu'un élève ». Donc voilà, la première chose que je lui ai dit, c'est merci de permettre autant d'actions. Donc voilà, c'est un étonnement que je comprends et que j'ai partagé... que j'ai partagé en début d'année.
Et vous, donc vous avez fait à votre parcours personnel, vous avez fait Hippocagne, vous avez dit, mais avant vous étiez dans un lycée évidemment j'imagine, et je suis sûr, et j'imagine que vous aviez aussi un parcours et vous avez peut-être eu comme nous une éducation comme ça à la citoyenneté ou aucune.
Ah, à la citoyenneté.
Non, ou une possibilité de s'exprimer, d'être dans des instances. Est-ce que vous n'avez pas eu la possibilité ou vous n'avez pas...
Peut-être que je ne l'ai pas saisi aussi. Oui. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas... Comment dire ? Je pense qu'il fallait pour le coup se battre... Enfin, il fallait vraiment chercher pour trouver. Et comme ce n'était pas ma démarche et que ce n'était pas vraiment mis en avant, j'ai été simplement déléguée de classe, c'est tout. C'est pas aller au-delà.
Déjà bien.
Oui, c'est vrai que tu as raison d'insister sur le fait de, comment dire, de l'importance de cette parole au jour d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, bon, par exemple, moi qui suis d'une autre génération, donc pour d'autres raisons, hein, il n'était pas à notre époque, c'est vrai qu'au mieux, on pouvait être délégué de classe, hein, c'est-à-dire faire acte de présence, pas même véritablement intervenir durant les conseils de classe ou quoi que ce soit, et c'était vraiment la seule instance qui nous était, entre guillemets, accordée, hein. Donc c'était vraiment, entre guillemets, d'un côté les enseignants et puis d'un côté nous les élèves, entre guillemets, très passifs. Alors que maintenant vous avez cette chance d'être beaucoup plus acteur, hein, de, comment dire, acteur vis-à-vis de ce qui se passe dans l'établissement et de votre scolarité.
Le premier conseil de classe où je me suis rendu en tant que délégué, le proviseur s'asseyait sur sur le bureau du professeur qui était sur l'estrade, déjà, et l'ensemble des participants, professeurs, délégués élèves, CPE, s'asseyait sur les tables des élèves, en dessous, comme des élèves, vous voyez, et le proviseur remplissait lui-même, ça durait longtemps, à la main, les avis qu'il reformulait lui-même. Voilà. Donc ça, si vous voulez, la parole de l'élève à l'époque était un peu, comment vous dire, limitée. Je précise aussi sur les ondes, pour qu'il n'y ait pas d'interrogation, je ne sous-dois aucun élève qui me dise merci. Vous avez parlé, c'est une parole libre.
Ah oui, totalement. Et est-ce que vous avez eu, du coup, quand vous étiez au lycée, une éducation à la sexualité ?
Non, aucune.
Aucune ?
Non. Par contre, en primaire, je me souviens bien avoir eu, par l'infirmière scolaire, quand même des messages avec des vidéos de prévention. C'était pour nous alerter sur les risques d'abus, de viol. Et avec une chanson qu'on ne comprenait pas forcément à ce moment-là. Mais du coup, c'est comme une graine qu'on sème et après, on comprend.
D'accord.
Et du coup, c'est vrai que c'est bien parce que parfois, on voit pas trop le sens, on a peur de choquer. C'est vrai, il faut surtout être vigilant à ça. C'est-à-dire que dans les classes, les niveaux de maturité sont pas les mêmes. Il faut être vigilant à ne pas choquer la pudeur de certains, surtout pas. Mais parfois, quand les messages ils sont bien formulés, eh ben, on le comprend plus tard. Ça reste quand même. Et c'est important, moi, je pense que... Et en SVT, j'avais rien. Enfin, c'était vraiment la planche basique et la reproduction de des grenouilles ou je sais plus. Enfin, je sais plus quel mammifère, mais c'était pas.
Mammifère marin.
Ouais.
Voilà, parce que moi, je me rappelle, je crois avoir eu de l'éducation à la sexualité.
Oui, mais c'est très inégal.
Alors que je suis plus vieille que vous. Ouais, et c'était à l'école primaire, mais ça restait excessivement basique. Hein. C'était des petits schémas qu'on arrivait à comprendre. Ouais. Et puis voilà.
Ça n'a jamais été direct comme aujourd'hui. Ouais. On me souvient au collège d'un cours sur la sexualité humaine et ça a été uniquement sur les mammifères, je ne sais plus quelle bestiole, mais très loin de l'homme hein, quand même. Mm-hmm. Il y a une grande gêne, disons-le, je crois. Mm-hmm. Enfin, une pudeur, je ne sais pas, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Mm-hmm. La société était différente.
Ouais. Mais encore à l'heure actuelle, hein, de mon enquête, enfin, voilà, ce n'est pas statistique, ce n'est pas complètement exhaustif, mais j'ai quand même eu pas mal d'académies, d'établissements et c'est laissé quand même au bon vouloir, à la bonne volonté des équipes pédagogique de l'impulsion qu'ils veulent donner. S'ils sont gênés avec le sujet, bah, il ne se passera rien.
Mais après, donc vous avez contacté des établissements scolaires, des académies. Mm-hmm. Est-ce que vous avez contacté aussi, par exemple, des acteurs privés, des journalistes, des penseurs,
J'ai eu pas mal de sociologues, d'associations. Voilà. J'ai assisté à des séances aussi dans différents établissements avec différentes associations. Ouais.
Et est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient opposées à l'éducation, à la sexualité dans l'établissement ou à l'interprétation, ou par exemple sur les droits LGBT, des choses comme ça? Est-ce que vous avez eu
On me l'a rapporté. J'ai pas eu directement de... Parce que déjà, les gens qui répondent à mes mails ou à mes appels, en général, c'est qu'ils ont une ouverture d'esprit et qu'ils ont déjà un peu avancé sur les questions. Après, on m'a rapporté quand même pas mal de... Oui, bien sûr, de freins, que ce soit de la part des équipes, des parents, des profs. Parfois, ça tient vraiment à la personnalité ou aux pratiques culturelles ou religieuses d'une personne, mais qui va être opposée et qui va pas délivrer les bons messages. Donc... Et c'est vrai que même si ça fait partie d'une circulaire, et ça reste assez flou. C'est pas vraiment un programme qu'on va dérouler. Et du coup, parfois, plutôt que de mal faire, on préfère ne rien faire.
Et cette inaction, elle aura une place dans votre reportage ou vous vous concentrerez uniquement sur ce qui est fait ici et sur ce qui doit être fait?
On va l'aborder en voix off, en commentaire. On va l'aborder forcément. On va dire que c'est un établissement un peu particulier où il y a quand même pas mal d'initiatives. On va pas aller montrer le néant. Enfin, ça peut se faire hein, parfois dans certains reportages d'aller voir à tel endroit comment ça se passe. Là, c'est pas le cas. On veut vraiment se concentrer et pousser l'expérience à fond avec voilà toutes vos initiatives, tous les sujets, et voir ce que ça apporte à la vie d'un lycéen, comment ça l'enrichit sur ses représentations, ses opinions, ses connaissances. Mais bien sûr qu'on va poser l'état des lieux et le constat, parce que sinon ça n'a pas de sens.
Ouais. Parce que
on va se dire que c'est un établissement comme représentatif, ce qui n'est pas forcément le cas.
Comme vous l'avez précisé au début, on est un établissement qui fait beaucoup de choses par rapport à beaucoup, différemment par rapport à d'autres. Et le risque, c'est justement que des spectateurs dont on a parlé au début, les parents de personnes qui n'ont pas d'enfants dans des lycées, ou même qui en ont hein, dans d'autres lycées en France, puissent penser que ça se passe comme ça dans tous les lycées, alors que ce n'est pas vraiment le cas.
Non, on mettra en perspective.
En sachant aussi que il ne faut pas non plus... C'est vrai ce que vous dites, hein, je crois. Mais il ne faut pas oublier non plus que vous vous souvenez quand même, et nous étions présents dans les mêmes conseils d'administration, où quand même tout n'a pas été facile, parce que je me souviens d'une action que vous aviez menée et mise en place, les élèves. Vous avez parlé tout à l'heure à Madame Mallet, et on a quand même entendu un représentant au conseil d'administration parler de Gay Pride mis en place dans l'établissement avec un mépris quand même dont je me souviens. Donc ce que vous dites est vrai, mais si le reportage se fait bien chez nous, on pourra aussi rappeler que tout ne s'est pas fait de manière linéaire.
C'était dans la continuité de l'exposition Amnesty qu'on avait fait il y a deux ans sur les droits LGBT. On avait fait un affichage dans le lycée qui consistait à montrer et à expliquer aux élèves toutes les orientations sexuelles et les identités de genre possibles. Voilà, une présentation simple et non orientée, et qui a valu une intervention de l'administration dans un professeur X qui avait comparé ça à une gay pride dans le lycée, qui avait notamment dit qu'on allait apprendre à nos enfants actuellement qu'être hétérosexuel est anormal, toutes les réflexions un peu
en fait il y avait aussi une confusion, parce que dans le même laps de temps le CVL mettait en place l'action du sentiment pour célébrer le sentiment amoureux.
Et en même temps, il y avait aussi le carnaval. Il faut savoir que les élèves qui sont élus et qui organisent le carnaval écrivent une charte de bonne conduite qui est suffisamment diffusée pour que les élèves restent quand même dans un cadre de respect et, par rapport à l'image de la femme ou de l'homme, hein, et que les élèves n'ont pas le droit d'adopter des costumes qui pourraient porter préjudice à l'image de l'homme ou de la femme. Donc du coup, les élèves, entre ces trois actions qui se sont passées relativement proches dans le temps, le professeur en l'occurrence a saisi
Oui, mais il dit peut-être
La demande et l'organisation des élèves.
Mais il dit aussi peut-être tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Mmh. Et ça signifie aussi que le combat, entre guillemets, cette ouverture d'esprit et ce qu'on essaie de mettre en place n'est donc pas gagné. Donc, on est représentatif, sans doute, je pense.
Et je voulais aussi dire au niveau... Même si on a pas mal d'actions, il y a nous-mêmes, nous mettons aussi des freins. Hein. On a aussi nos propres freins. C'est-à-dire que, par exemple, dans la conception de l'affiche, hein, on a beaucoup discuté, hein, parce que notre affiche, enfin, vous l'avez vu, elle est prégnante. Qu'est-ce qu'on montre? Jusqu'où on ne montre pas, etc., etc. Donc, nous-mêmes, même si on fait peut-être pas mal de choses, on est aussi rattrapé, entre guillemets, par nos propres craintes, jusqu'où doit-on aller, est-ce que ça on en parle, est-ce que ça on n'en parle pas, etc.
C'est vrai que moi, tous les ans dans ma classe, donc moi je suis aussi délégué de classe et j'essaie vraiment d'instaurer une relation de confiance avec les élèves, et tous les ans j'ai des élèves qui viennent me demander à moi d'aller chercher des préservatifs pour leur couple, d'aller poser des questions aussi qu'ils ont à l'infirmière, parce que justement il y a une certaine pudeur, aussi un peu de peur, et cette gêne-là du fait que ça reste un sujet tabou de nos jours.
C'est notre rôle avec l'éducation, avec la décomposition de ça, de rendre ça non, de transformer ça en sujet qui est plus tabou, et ça se fera avec le temps.
Mais du coup vous les encouragez à y aller par eux-mêmes ou vous dépannez?
Moi ce que je leur propose c'est d'y aller avec eux. Donc pour qu'ils voient une première fois et que
ça
après,
normalise un peu
et que ça devienne quelque chose de normal. Après d'aller demander conseil à l'infirmière, etc.
Moi ce que j'espère c'est réussir à montrer votre réalité, pas avoir un truc un peu édulcoré de bon c'est un lycée magnifique. Bah, je pense que ça va transparaître quoi qu'il en soit et que ça va donner quand même envie ou voilà. Ça va transparaître, c'est évident. Et puis surtout, je veux valoriser toutes les actions qui sont mises en place. Mais j'aimerais quand même que ce soit pas quelque chose d'insipide où on gomme, où on atténue toutes les situations auxquelles vous pouvez être vraiment confronté. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler en bonne entente et en bonne intelligence pour se dire voilà, là on a telle situation, on est confronté à ça, mais on préfère pas le montrer. Mais par contre, si on a ce genre de choses, peut-être qu'on en parlera pour montrer en fait. Comment on se saisit de ces problèmes, comment on les résout. C'est ça qui est intéressant, je pense, à mon sens.
Oui, tout à fait. De toute façon, il est établi, il y a un rapport de confiance. Voilà. Surtout pas montrer quelque chose. Alors là, pour le coup, ce serait pas représentatif d'aller faire du préfabriqué. Voilà. On est ce qu'on est, de toute façon. On n'a aucun intérêt à rien cacher. Si les situations sont sensibles, ben on se le dit, et puis elle demande qu'elle passe pas à la caméra, c'est trop compliqué, ou vraiment c'est trop sensible humainement, et puis voilà, et moi j'ai pour ma part en tout cas aucune crainte.
Ben, moi je vous remercie d'être venu. On va finir sur ces mots de monsieur le proviseur. Dire que notre établissement est totalement nature, il n'y a pas de surfait. Je remercie Madame Mallet d'être venue. Je vous remercie de nous avoir donné ce temps précieux, cette interview. Je remercie Monsieur Bardet, Madame de la Victoire, Madame Arnoldi, Nicole Maxence et bien sûr Cajun Hugo. Je remercie aussi toute ma technique, Monsieur Lucas et Florian, mon ingé, la masterclass pour avoir filmé. Et bien sûr, voilà.
Et nous remercions Axel de nous avoir entendu, évidemment.
tout à fait. Ouais. Merci beaucoup.
Et quand passe l'émission.
Mais bien sûr, dans le montage, ce sera la semaine prochaine.
Et pour...
Dès lundi.
Appelez-la Boulgour, celle-là.
On l'appellera Boulgour. Donc, petit rappel, voilà, n'oubliez pas d'aller sur Antithèse Radio, le site, sur l'Instagram, sur le Twitter, sur le Facebook. Voilà, proposez-nous plein d'idées. On est à votre écoute, on est là pour vous. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté et au revoir.